Vous écoutez RFI, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
Diane Berger.
Anthony Blinken en Israël pour son 11e voyage au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Le chef de la diplomatie américaine le redit ce soir. Avec la mort de Yahya Sinwar, il est possible de mettre un terme à la guerre à Gaza. Vladimir Poutine réunit ses alliés début du sommet des BRICS à Kazan en Russie, alors que Moscou vient de se faire condamner par la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis un autre sommet en ce moment, c'est celui de la COP16 en Colombie pour la biodiversité. Un combat qui a pris du retard, vous l'entendrez. Un nouveau voyage pour tenter d'obtenir un arrêt des combats. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé ce mardi une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Première étape, Israël, le plus proche allié des États-Unis dans la région. Bonsoir Auriane Verdier.
Bonsoir.
Le chef de la diplomatie américaine l'a redit. Il faut tirer parti de la mort du dirigeant du Hamas, Yahya Sinwar, pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza.
Oui, il a affirmé au Premier ministre israélien que la mort du chef du Hamas pourrait avoir un effet positif sur le retour des otages retenus à Gaza. Il a également pressé Benjamin Netanyahou de prendre des mesures supplémentaires pour permettre l'aide humanitaire de parvenir aux civils à Gaza. Toutes les frontières de l'enclave sont contrôlées par l'armée israélienne qui ne laisse les vivres entrer qu'au compte-gouttes et empêche la population de sortir de ce territoire pilonné par Israël depuis plus d'un an. Le secrétaire d'État américain a également réaffirmé la nécessité d'unir les forces des deux pays face à ce qu'il présente comme la menace iranienne. Washington appelle publiquement à la désescalade entre Israël et l'Iran. Le 1er octobre dernier, rappelez-vous, Téhéran a mené une attaque de missiles sur Israël et les autorités israéliennes ont annoncé leur volonté de riposter. Demain, le secrétaire d'État américain devrait se rendre en Arabie Saoudite pour discuter des projets de normalisation de cet autre allié des États-Unis avec Israël. Ce processus interrompu par le massacre en cours à Gaza pourrait être un argument de poids pour pousser Israël à un accord de cessez-le-feu à Gaza.
Merci beaucoup, Auriane Verdier. En attendant cet éventuel cessez-le-feu, les bombardements continuent dans la région. Au Liban, selon Beyrouth, deux frappes israéliennes ont fait 10 morts ce soir dans le sud et l'est du pays. L'armée israélienne qui a également appelé à évacuer certains bâtiments de la banlieue sud de Beyrouth. Et un peu plus tôt dans la soirée, c'est le Hezbollah qui a attaqué. La milice chiite alliée de Téhéran affirme avoir visé une base militaire israélienne près de Haïfa, ainsi que 7 chars d'assaut à la frontière. Vladimir Poutine veut renforcer ses liens avec la Chine. Déclaration cet après-midi du président russe à Kazan à l'occasion du sommet des BRICS, le groupe des puissances émergentes. Le chef du Kremlin qui accueille entre autres Xi Jinping, le dirigeant chinois, Narendra Modi, le premier ministre indien ou encore ce soir le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Manière pour lui de montrer que malgré les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, son pays n'est pas si isolé. Une réunion avec au centre la Russie. Alors qu'en Occident, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, condamne Moscou. C'est au sujet de la loi russe sur les agents de l'étranger, un texte adopté en 2012 qui oblige toute entité recevant un soutien, qu'il soit financier ou autre, depuis l'extérieur de la Russie, à s'enregistrer et à se déclarer comme agent de l'étranger. La juridiction européenne installée à Strasbourg estime ce texte arbitraire et il crée un climat de méfiance, je cite, envers les associations. Plus de détails avec à Strasbourg Jean-Jacques Herry.
D'abord cantonné au champ des ONG, le périmètre de la loi s'est peu à peu élargi, intégrant progressivement les organisations de défense des droits de l'homme ou encore les médias critiques du pouvoir, avec pour conséquence des amendes et des restrictions de leurs activités. Saisis par 107 ONG, militants écologistes, observateurs électoraux ou encore médias, la CEDH leur a donc donné raison, évoquant des mesures arbitraires et des sanctions disproportionnées et explicitant dans sa décision le fait que cette législation avait pour but de punir et d'intimider plutôt que de répondre à un besoin allégué de transparence ou à des impératifs légitimes de sécurité nationale. Bref, de mettre au pas la société civile russe. Raphaël Glucksmann, député européen du groupe des sociaux-démocrates, se réjouit de cette condamnation.
C'est une décision symboliquement importante, mais la vérité c'est que c'est pas la première condamnation de la Russie. Les opposants aujourd'hui en Russie sont soit en prison, soit morts, soit en exil, soit ils se cachent. Plus personne n'a d'illusion sur la nature du régime russe. C'est une dictature absolue.
Depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine, la Russie a été exclue du Conseil de l'Europe dont dépend la CEDH. Mais théoriquement, les décisions de la Cour continuent à s'imposer à elle pour des faits antérieurs à cette date. Jean-Jacques Herry, Strasbourg, RFI.
En Ukraine, deux affaires qui illustrent les difficultés de l'armée pour mobiliser des troupes supplémentaires après quasiment 3 ans de guerre contre la Russie. Un homme s'est suicidé dans un centre de recrutement. Il y avait été amené hier lundi par la police car il figurait sur la liste de fugitifs qui tentaient d'éviter la mobilisation. Dans la même journée, le procureur général du pays a démissionné après une enquête sur le système de corruption en place dans son administration, qui aurait permis à certains responsables de son équipe d'éviter l'enrôlement dans l'armée. Un lourd bilan au Soudan, selon des groupes pro-démocratie et des secouristes bénévoles, en moins de 3 jours, 70 personnes sont mortes dans le pays, toujours ravagées par les affrontements entre l'armée officielle et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Passer des paroles aux actes, un défi à la COP16 pour la biodiversité à Cali, en Colombie. 196 pays sont réunis pour concrétiser l'engagement international de protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030. Cela passe notamment par la mise en place d'objectifs nationaux. Des plans nature, sorte d'équivalent des plans climat que l'on prend dans le cadre de la lutte contre le réchauffement. Mais il y a un problème, et pas des moindres, Simon Rosé. Très peu de pays ont rendu leur copie.
Il s'était pourtant engagé à le faire avant la COP16, mais voilà, parmi les 196 États représentés, seuls une trentaine ont soumis à temps leur stratégie nationale en faveur de la biodiversité. Quelques contributions ont néanmoins été déposées depuis l'ouverture de la conférence, notamment celle de la Colombie, très attendue en raison de la richesse de sa nature et car le pays est l'hôte de cette COP. Ambitieux, ce plan de 350 pages vise à augmenter de 10% le nombre de zones protégées du pays. Il établit également des liens clairs entre la nature et le climat. À ce maigre nombre de plan, les optimistes ajouteront ce qu'on appelle les cibles nationales, un engagement qui n'est ni aussi fort ni aussi exhaustif que ce qui était demandé, mais qui a le mérite d'exister. Plus de 2500 ont été déposés par 110 pays. Là aussi, une contribution était particulièrement attendue, celle du Brésil, rendue publique à l'occasion de cette COP. 250 actions, zones protégées, adaptation aux conséquences du réchauffement climatique grâce à des solutions basées sur la nature. Le document brasse large, mais reste inachevé, décevant selon les observateurs, qui attendent de plus d'un pays qui se présente comme un champion mondial en la matière.
Simon Rosé. Et la lumière refus à Cuba. 70% de la population de l'île reçoit à nouveau de l'électricité. 4 jours après la panne géante qui a plongé le pays dans le noir. Une crise énergétique aggravée par le passage de l'ouragan Oscar qui a tué 6 personnes dans l'est du pays pendant le week-end. En France, le dossier politique du moment, c'est le budget 2025, examiné depuis hier soir à l'Assemblée. Un projet de loi qui prévoit 60 milliards d'euros d'économies pour réduire le déficit du pays. Pour le faire adopter, le gouvernement doit faire attention à ne pas provoquer la colère du Rassemblement national. L'extrême droite dispose en effet d'un nombre de députés suffisant pour provoquer la censure du gouvernement. Et tout à l'heure, Marine Le Pen, la chef de file du RN, a émis un sérieux avertissement.
Tentez de tromper certains députés ici, mais ne croyez pas que vous tromperez les Français. Nos compatriotes comprennent ce qui se joue ici et qui y joue. C'est vous et vous seul qui devrez assumer vos responsabilités, que ce soit le risque d'effet récessif ou de crise financière, ce sera bien de votre fait. Il n'est évidemment pas trop tard pour revoir votre copie. Et en tant que les gardiens vigilants de l'intérêt de la France et des Français, nous espérons vous en convaincre pour ne pas être obligés de vous y contraindre.
Marine Le Pen à l'Assemblée nationale où un autre événement notable a eu lieu ce soir. L'écologiste Jérémy Yordanov, élu vice-président, il a bénéficié de divisions au sein de l'attelage Les Républicains et du camp macroniste pour récupérer le poste laissé vacant par Annie Genevard, la députée nommée il y a quelques semaines ministre de l'Agriculture. En Croatie, une affaire de harcèlement scolaire provoque une réaction inédite. Environ 1000 élèves ont boycotté les cours aujourd'hui dans une école primaire de Zagreb, la capitale. Les enfants protestent contre le retour en classe d'un écolier accusé de s'en prendre aux autres. Une affaire qui secoue depuis plusieurs mois le système éducatif du pays. Et puis l'actualité sportive, c'est ce match de football en 3e journée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui affronte le PSV Eindhoven. Pour l'instant, le score, c'est 1-0 en faveur des Néerlandais. On y reviendra sans doute dans 2 heures, dans 24 heures en France. Mais tout de suite, il est 20h10 en temps universel. Restez à l'écoute de RFI, c'est Couleurs Tropicales.